L'évangile de Luc au chapitre 5, et j'appellerai ce message la guérison du pécheur. La guérison du pécheur, qui va commencer par la guérison du pécheur de Pierre. On peut lire à partir du verset 4, chapitre 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon : Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des barques, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il : Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus, les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Amen.
Amen.
Le premier passage, on le voit, c'est la pêche miraculeuse. Pierre était un pêcheur aguerri, c'était son métier, certainement il avait de l'expérience. Ses collègues avec lui également, mais il se trouve que, eh bien, dans son métier, il n'a pas eu de succès ce jour-là, parce qu'il n'a rien pêché, comme ça peut arriver parfois, dans nos activités où nous ne produisons pas ce que nous devrions produire ou ce que nous attendons, ou ce qu'on attend de nous. Et puis, Jésus va lui donner une parole en lui disant, ben, va, jette ton filet à tel endroit, il va le faire, il va jeter le filet à tel endroit, et là, ça va être la pêche miraculeuse, ça va être la pêche miraculeuse. Et la réaction de Pierre, c'est qu'il va réaliser son état de pêcheur à partir de cette... Simplement, Jésus ne va rien lui dire, il ne va pas lui dire « Tu es un pêcheur, tu as besoin de te repentir, tu as besoin de changer de vie, etc. » Simplement, ce miracle de la puissance de Jésus va amener Pierre à réaliser qu'il est un pêcheur et il va se jeter aux pieds de Jésus. Il va faire l'expérience à partir de ce miracle-là, l'expérience d'abord de sa faiblesse et de ses limites, confronté à la toute-puissance du Maître. Finalement, c'est peut-être l'un des objectifs, l'un des buts recherchés quand Dieu opère des signes dans nos vies, quand il opère des miracles en notre faveur, qu'il puisse être grand ou qu'il puisse être petit. Le but, c'est que nous puissions comprendre, nous puissions réaliser que nous sommes petits, nous sommes faibles, et que nous avons un Dieu qui est grand, qui est tout-puissant et qui peut débloquer la situation en un rien de temps. Dans Jean, il est dit dans Jean 20 que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Il est dit que Pierre, il a été saisi d'épouvante, et je ne sais pas comment ça se passe, vous, quand vous êtes saisi d'épouvante, mais moi, quand je suis saisi d'épouvante, si quelque chose m'épouvante, je fais demi-tour, je pars, je fuis. Mais ce qui paraît contradictoire, c'est que Pierre est saisi d'épouvante, mais en même temps, il se jette aux pieds de Jésus. Il est saisi d'épouvante quand il réalise lui ce qu'il est, sa propre faiblesse, son état de péché, et Jésus qui est là capable de le juger, de le foudroyer. Et pourtant, il va se jeter aux pieds de Jésus, aux genoux de Jésus. C'est quand même contradictoire, mais c'est finalement l'expression de la grâce qui est véhiculée par Jésus, qui n'est pas venu pour juger les hommes, mais qui est venu pour les sauver. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Jésus est capable de nous foudroyer à l'instant, de nous juger, mais il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver, pour nous relever de notre situation de faiblesse, de misère. Jésus n'a pas changé. Et peut-être on peut être saisi d'épouvante quand on prend conscience de notre péché, de nos limites, et de la sainteté, de la toute-puissance de Dieu, mais ça ne doit pas nous amener à fuir, ça doit au contraire nous amener à nous réfugier aux pieds de Jésus, aux genoux de Jésus. Et pour se mettre aux genoux de Jésus, certainement il faut se mettre aussi à genoux. Parce que Jésus était là, et il faut se mettre à genoux au pied de Jésus. Vous voyez, il faut se courber, et c'est ce qu'il faut faire. devant Jésus. La Bible dit dans Romains 8 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, aucune condamnation. Certes qu'ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et cela, Pierre l'a compris, implicitement il l'a compris dans la présence de Jésus. Et il y a beaucoup de choses qu'on comprend dans la présence de Jésus, sans qu'on nous les explique par toutes sortes de théories ou de théologies. Il y a bien des choses que l'on comprend simplement dans la présence de Jésus. D'où l'importance de passer du temps dans la présence de Jésus. D'où l'importance de nos rassemblements où nous croyons que Jésus est présent. Amen. Où là, il est capable d'appliquer à notre cœur des réalités qui sont tellement importantes. Pas seulement pour notre intelligence, mais pour toute notre vie. Et qui auront des implications dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que toi aussi tu as ressenti face à l'intervention de Dieu, face aux signes que Dieu a fait dans ta vie, certainement le Seigneur a déjà manifesté des signes, des interventions surnaturelles. Est-ce que toi aussi tu as expérimenté la repentance, la conviction de péché en te réfugiant au pied de Jésus, ou au contraire comme ces 9 lépreux que Jésus a pu guérir, ils sont repartis, ces aveugles sont repartis sur leur chemin, tels qu'ils étaient, sans qu'il y ait aucun changement dans leur cœur. Ils ont été guéris, ils ont saisi la guérison, mais la guérison n'a pas atteint son but. La guérison n'est pas une fin en soi. Parce qu'un jour, on quittera ce corps. Jésus nous guérit, nous bénit, mais la bénédiction n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de vivre l'éternité avec Jésus. Et si on s'arrête à la bénédiction, j'ai ma bénédiction, maintenant je m'en vais, tel quel, je repars tel quel, on manque un but, on manque quelque chose. Jésus veut nous bénir, mais tout ça pour nous amener plus près de lui, réaliser ce que nous sommes et réaliser qui il est. Et nous amener à être plus dépendants de lui. Le miraculeux, effectivement, n'est pas une fin en soi. Il doit nous faire prendre conscience de notre faiblesse, de notre insuffisance. Jésus n'a-t-il pas dit lui-même « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » et nous pousser au pied de Jésus pour recevoir sa grâce, son pardon, son secours. La grâce, on peut le voir dans le cas de Pierre et de ses compagnons de travail, va même plus loin simplement que le pardon, le rétablissement, le relèvement. Elle va introduire le pécheur repentant, racheté, c'est-à-dire immédiatement au service du maître. Certes, il y aura tout un processus, parce qu'ils vont être formés par le Seigneur, et c'est ce qui se produit aussi pour nous. Il y a tout un travail de formation qui dure toute la vie tant qu'on est sur cette terre. Mais on voit très rapidement, Pierre va être enrôlé dans le service du maître, en lui disant « tu seras pécheur d'homme ». Est-ce que ce n'est pas le Seigneur, ce que le Seigneur veut faire? À partir du moment où nous sommes convertis, tout de suite, il a besoin de nous pour, certes, on a notre travail, mais la finalité, c'est de pouvoir amener des âmes à Dieu. Nous nous sommes sauvés. Un jour, on passera, si on reste fidèle au Seigneur, notre éternité avec Dieu. Mais le but, si on reste là finalement, pourquoi si on reste là? C'est qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'être sauvés. C'est vrai, parce que c'est des temps qui ne sont pas faciles, qui sont difficiles. On marche non pas par la vue, mais par la foi. Jésus a dit, vous aurez des difficultés, des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Certains meurent pour leur foi, sont persécutés. Donc on est dans un contexte d'opposition. Et si le Seigneur nous laisse, c'est simplement parce qu'il y a d'autres âmes qui sont là et que l'Église, elle est le sel de la terre. Elle est la lumière du monde et individuellement aussi pour témoigner, pour amener d'autres âmes qui sont perdues, pour les empêcher d'aller tout droit en enfer et leur faire connaître la grâce de Dieu manifestée en Jésus. C'est ça le but de ta vie finalement, le véritable but de ta vie, ici-bas. Mon frère, ma sœur, tu es un pécheur d'hommes, de femmes, d'enfants, de petits, de vieillards. Le Seigneur veut te qualifier, il te qualifie pour ça, reçois-le. Et sois à son écoute, à son école, il va te former pour cela. À titre individuel également, comme Église encore plus. C'est la vocation de l'Église. C'est l'exemple de Paul, hein, finalement. Saul qui est devenu Paul, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, et qui va rencontrer son Seigneur sur le chemin de Damas, et immédiatement le Seigneur va lui dire, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant des nations, devant des rois, devant des grands. Immédiatement. Certes, il va y avoir tout un chemin de préparation, mais c'était le but, et pour nous, c'est pareil. Peut-être on n'ira pas jusqu'au bout du monde pour ça. C'est pas ça le but. L'important, c'est d'être là où Dieu veut qu'on soit, et que sachant que là où on est placé, il y a des âmes à sauver. Amen. Déjà dans notre famille. Mais où Dieu va nous envoyer? Il peut nous envoyer au bout du monde. Mais là où il nous envoie, il y a des âmes à sauver. Et le Seigneur a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous pour cela. La guérison du pécheur, elle commence par une prise de conscience, une conviction de péché. Effectivement, toute guérison doit commencer par une d'un pécheur doit commencer par une prise de conscience, une conviction de péché. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comme Pierre et ses compagnons qui sont convaincus de péché, Dieu veut nous amener, Jésus veut nous amener à mieux saisir, à partir de notre propre vie aussi, ce qu'est le péché finalement. Parce que Pierre, il réalise, il dit « je suis pécheur ». Mais est-ce qu'il n'a pas compris complètement ce que ça voulait dire ? Et nous, souvent, quand on se convertit, on ne comprend pas non plus toujours exactement ce que ça veut dire le péché. Et même encore aujourd'hui, de comprendre la laideur, les manifestations, les conséquences du péché qui ont quand même poussé Jésus à venir de son ciel de gloire pour mourir sur une croix. À cause du péché qui est manifesté dans nos vies, c'est quelque chose de grave le péché. Et Pierre qui réalise d'abord qu'il est pécheur, eh bien Jésus va l'amener, de même que ses compagnons, progressivement à prendre conscience de ce qu'est le péché, les différentes manifestations du péché. Pas seulement dans la vie des autres, mais à commencer par notre propre vie. Pierre, il n'est pas convaincu des péchés de ses collègues. Peut-être ça, et on le voit même après quand ils sont disciples, ils suivent Jésus, on voit qu'entre eux, ce n'était pas toujours facile, hein. Donc, à plus forte raison avant qu'ils connaissent le Seigneur. Mais pourtant, quand Pierre, à travers cette pêche miraculeuse, Pierre est convaincu de ses propres péchés. C'est ce qu'il veut nous amener à faire, être convaincu de nos propres péchés. Versets 12 à 16, là, il nous est parlé d'un lépreux. D'un lépreux, il est dit que cet homme était couvert de lèpre. Couvert de lèpre. Et là, c'est encore la pédagogie, la façon dont Jésus va expliquer à Pierre ce que c'est aussi le péché. Et la situation des lépreux en Israël, on le voit dans Lévitique 13, était une situation vraiment peu enviable. Il est dit qu'ils devaient porter des vêtements déchirés, ils avaient la tête nue, ils se couvraient la barbe et ils criaient « impur, impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Donc c'est vraiment une position peu enviable, une position triste, rejetée. Cet homme était couvert de lèpre. Parenthèse, Luc était médecin. Qu'est-ce que la lèpre ? Rapidement, on l'appelle aussi la maladie de Hansen. C'est une maladie infectieuse qui est chronique. Elle est due à un germe, une bactérie. On en distingue deux grandes formes, globalement deux grandes formes, avec des formes intermédiaires, mais surtout deux grandes formes. Elle était très répandue en Europe, au Moyen-Âge. Elle a presque maintenant entièrement disparu du vieux continent, elle est encore présente dans certains pays. Là où elle est le plus présente, c'est en Inde. C'est là qu'il y a le plus de lépreux, c'est là également qu'il y a le plus de nouveaux lépreux qui arrivent. Mais elle est dans d'autres pays, plutôt dans les pays du Sud, liés au climat entre autres. Elle a longtemps été incurable et elle était mutilante, cette maladie. Peut-être juste une parenthèse, dans les cas les plus graves, c'est Thomson qui le dit, il a vu lui-même, les croûtes se produisent, je cite, graduellement en divers endroits. Cheveux, ongles, articulations, phalanges, gencives, dents disparaissent lentement, de même que le nez, les yeux, la langue, le palais. Il rapporte, Thomson, qu'à la porte de Jaffa, Jérusalem, il fut saisi de stupeur à la vue de ces hommes qui étaient privés d'yeux, de nez. De cheveux, ils levaient les bras, dépourvus de mains, leur bouche sans palais émettait des sons qui n'avaient rien d'humain. On voit la laideur de la lèpre quand elle va jusqu'à son terme, quand elle n'est pas traitée. Nos jours, la guérison est possible si elle est diagnostiquée rapidement, précocement, et avant qu'il y ait des signes trop importants, notamment des signes neurologiques, de névrite, de paralysie. Elle est traitée par des antibiotiques, l'association d'antibiotiques. Voilà. Mais à l'époque de biblique, il n'y avait pas ces remèdes. Il n'y avait pas ces remèdes. Au stade de début, en apparence, les lésions de la lèpre, elles peuvent passer inaperçues. Elles vont se caractériser par des lésions cutanées qui vont être diffuses, mal limitées, mal délimitées. De même qu'au niveau des muqueuses, de la bouche, du nez. Ce seront des taches lisses qui peu à peu vont s'étendre, blanchir. Le poil, des parties molles. Elle peut apparaître aussi sous forme d'ulcères, de brûlures, dans les cheveux également, dans la barbe. Elle a un temps, et ça c'est intéressant, elle a un temps d'incubation de 2 à 10 ans, voire 20 ans. Ça veut dire qu'avant qu'elle se manifeste, eh bien, la maladie est là, en train d'agir. Elle est présente, mais elle n'est pas encore manifestée. C'est pour ça que souvent, elle est détectée chez des jeunes adultes ou des adultes, alors qu'elle s'est déjà déclenchée chez des enfants. Mais finalement, le péché, est-ce que c'est pas un petit peu la même chose ? Quand on regarde chez nos enfants, chez les enfants, chez les bébés, il est comme déjà en gestation, finalement. Vous savez, il y a un adage populaire qui n'est pas systématiquement vrai, loin de là, mais qui a une part de bon sens et de vérité. Petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. Effectivement, quand des petits de 1 an sont en train de se disputer, ça fera moins de dégâts que s'ils ont 20 ans. Nos bambins, au début, c'est vrai qu'ils paraissent si mignons, si croquants, qu'on ne soupçonne pas du tout l'once du mal ou du péché. Mais au fil des semaines, des mois ou des années, ça arrive plus ou moins vite, mais ça arrive assez vite. Ce qui est embryonnaire apparaît de plus en plus. Les noms se manifestent quand on demande quelque chose. Le mensonge, la manipulation, les colères, les caprices, la violence même. Cet été, j'ai été choqué dans un magasin, j'ai vu un tout petit, qui avait peut-être 3 ans, qui frappait sa maman parce qu'elle refusait de lui donner quelque chose, mais il la frappait avec des coups de poing et la maman ne savait pas s'en défaire. Il la cognait, mais je me dis, c'est à 3 ans, il marche à peine, il avait peut-être 2 ans et demi, 3 ans, s'il cognait sa maman, vous imaginez ce que ça va donner plus tard ? Quelle violence qui est là. Après, il y a tout le travail de l'éducation. Mais l'éducation ne change pas le cœur. Il donne heureusement, l'éducation est bonne. Hein. Elle est bonne, elle est utile. Mais elle ne change pas le cœur. Elle ne change pas le cœur. Après, chez les plus grands, là où elle était, on va dire, un peu en gestation, elle va être beaucoup plus évidente chez les grands. Même si, Paul dit à Timothée, les péchés de certains hommes sont manifestes. C'est-à-dire qu'ils se voient clairement. Chez certains, c'est clair, c'est net. Même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Et finalement aussi, plus on apprend à connaître quelqu'un, plus on va découvrir ses qualités, mais aussi ses défauts. Et ceux qui nous connaissent, celui qui me connaissent le mieux, connaissent le mieux mes défauts également. Et je pense que c'est pour chacun d'entre nous. Effectivement, certains, du fait de l'éducation, de la bonne morale, de l'habit religieux, ne vont pas laisser apparaître de manière évidente leur nature pécheresse, où ils vont réussir à préserver les apparences, jusqu'au jour où ça peut éclater. Au plus grand jour, et ça me fait penser à Naaman, vous savez, ce général syrien. Il est dit dans 2 Rois 5 qu'il jouissait d'une très grande considération. Parce que c'était par lui que l'Éternel avait opéré une délivrance de son peuple. Il avait également la faveur de son maître. Cet homme était fort, il était vaillant, quelle qualité extraordinaire. Mais il était lépreux. Il cachait sa lèpre aux yeux de ses soldats, derrière ses vêtements de généraux, derrière sa cuirasse. Mais on ne peut pas la cacher devant Dieu, notre lèpre. C'est pas possible. Quelle que soit l'épaisseur de notre cuirasse, la beauté de nos vêtements extérieurs, pas seulement physiques d'ailleurs, il y a cet adage populaire qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Et c'est vrai. Hébreu nous dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Et notre justice, nos propres vêtements que nous pouvons mettre là, eh bien il dit que ce sont comme des vêtements souillés devant Dieu. Un jour devant le tribunal de Christ, pour nous chrétiens, pour ceux qui refusent l'amour de Dieu manifesté en Jésus, eh bien il dit que le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera dû. La lèpre, elle se traduit, elle se manifeste aussi par un mal profond, la profondeur du mal. C'est pas quelque chose de superficiel. Et c'est pas à confondre avec une maladie de peau comme on peut avoir, de l'eczéma, de l'urticaire, du psoriasis, ça n'a rien à voir avec la lèpre. Pour diagnostiquer la lèpre, il fallait un œil expert, c'était le sacrificateur qui le faisait, c'est le type de Christ. Dans l'Ancien Alliance, vous pouvez voir ça dans Lévitique, notamment dans Lévitique 13. Et pour diagnostiquer l'un des éléments qui distinguait, qui permettait de dire c'est une lèpre, Lévitique 13, 3, le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Donc on le voit, une plaie plus profonde que la peau. Le diagnostic, c'est la lèpre. Il fallait un œil expert pour ça. Il ajoutera également, s'il y a sur la peau une tumeur blanche et si cette tumeur a fait blanchir le poil, pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour déclarer la lèpre, et qu'il y ait une trace de chair vive, une trace de chair vive. Dans la tumeur, c'est la lèpre invétérée. Dans la peau de cet homme, le sacrificateur le déclarera impur. J'ai regardé la définition de invétéré. Ça signifie un pénitent endurci, incorrigible, incurable. C'est-à-dire que c'est marqué, il n'y a pas possibilité là. Ça y est, ça atteint un degré tel que là, on le déclare comme lèpre. Il ira plus loin, quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il déclarera impur. La chair vive, c'est la lèpre. Mais finalement, n'est-il pas vrai du diagnostic de Dieu par rapport aux hommes, par rapport à nous les hommes? Romains 3 nous dit, nous avons déjà prouvé que tous, que ce soit juifs et grecs, tous sont sous l'empire du péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul, pas même un seul, pas même un seul. Nul n'est juste devant Dieu. Ésaïe le dira, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Ésaïe 1, 5, 6. Jérémie rajoutera, Jérémie 30, ta blessure est grave, ta plaie douloureuse, tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Donc on voit que l'état de l'homme devant Dieu est tout autre que ce que l'homme peut s'imaginer vis-à-vis de lui-même ou l'apparence qu'il peut donner. Le mal est profond, pourquoi? Parce qu'il vient du cœur même des hommes. Matthieu 15 nous dit que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes ces mauvaises choses, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudices. Tout vient du cœur, donc du plus profond de l'être humain, de sa volonté, de sa décision, de ses sentiments. Le cœur, c'est ça, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est du cœur que jaillit le mal. Alors c'est sûr que si vous volez, on peut vous couper la main en disant bah, « c'est la main qui est responsable ». Le problème, c'est que ça ne change pas l'état du cœur. C'est trop profond, la lèpre, le péché, c'est trop profond. Un autre élément de la lèpre, c'est qu'elle est contagieuse, plus ou moins en fonction des formes, mais elle est quand même contagieuse. Elle se propage par le contact de la peau, peau à peau, mais également par les voies aériennes, par par la salive par exemple, ou quand vous parlez à quelqu'un, par les postillons ou autre. Et finalement, c'est vrai que le péché, il est quand même si nous sommes tous pécheurs par nature, on peut être influencé, on peut contaminer quelqu'un. N'avons-nous pas nous-mêmes contaminé quelqu'un par nos paroles ou par nos actions? La Bible en dit dans Proverbe 22, « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Corinthiens dira, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc on voit que la lèpre est contagieuse et que le Seigneur nous met en garde également de faire attention à nos fréquentations pour ne pas ressembler à qui nous nous assemblons, à ceux avec qui nous assemblons. S'il se comporte mal, de manière récurrente et habituelle. Elle est contagieuse, elle est excluante également. Le lépreux, à partir du moment où il était identifié comme tel par le sacrificateur, il était immédiatement exclu de la communauté. Lévitique 13 nous dit « Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. » Plus tard, également, il y a eu l'instauration de léproserie, où là on isolait les lépreux, on les regroupait tous ensemble. Le pécheur, c'est un petit peu la même chose aussi. Dans le monde, le pécheur, on va dire, c'est celui qui peut être considéré comme coupable vis-à-vis de la loi. Quand il est identifié comme tel également par les autorités, par la loi, par ce qu'il a fait, il peut être placé en détention. C'est-à-dire qu'on va l'isoler du reste de la société à cause du danger qu'il représente pour les autres. Parenthèse, les prisons françaises sont pleines. Il y a une surpopulation carcérale. Et ça en dit long, certainement, de l'état de notre pays, au niveau moral. Puis également, certains modes de vie vont nous isoler des autres. Si nous allons dans certains, très loin dans le péché, on peut s'isoler des autres. Dans l'Église aussi, dans 1 Corinthiens 4, 13, il est dit « Ôtez le méchant du milieu de vous ». Ce sont des cas rares et extrêmes, ce ne sont pas des généralités, ce sont des cas rares et extrêmes, mais ça existe également. Par mesure de protection, comme le lépreux, si on le laisse dans la communauté, il va contaminer les autres. Et dans des cas rares et extrêmes, ça peut arriver, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est la discipline par exclusion qui est nécessaire parfois pour protéger le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est un organisme vivant, donc il faut le protéger également. Mais également, le but, c'est d'amener le pécheur repentant le pécheur à la repentance. Il y a un cas notamment qui est cité dans l'église de Corinthe. C'est une maladie qui est mortelle. C'est une grave maladie. Si elle n'est pas traînée, elle peut entraîner une mort prématurée. C'est-à-dire qu'avant qu'elle arrive, ça ne sera pas immédiat, mais les lépreux meurent des conséquences de la lèpre. On ne meurt pas directement de la lèpre, mais des conséquences de la lèpre. C'est une maladie qui s'étend, qui déforme et qui mutile. C'est pareil pour le péché. La Bible dit dans Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché va conduire à la mort physique. Ce n'était pas le plan de Dieu au départ. On n'est pas créé pour mourir. On n'est pas créé pour vivre des séparations. C'est pas quelque chose de naturel. C'est pour ça que c'est toujours douloureux. Hébreux 9 nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir. Mais ce n'était pas au départ. On n'était pas créé pour mourir. Nos premiers parents étaient créés pour vivre éternellement. La mort physique, la conséquence du péché, de la désobéissance de nos premiers parents, mais également la mort spirituelle. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Parce qu'ils ont pris du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Ils ne pouvaient pas rester dans la présence de Dieu et vivre éternellement. Romains 3 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », c'est-à-dire de la présence glorieuse de Dieu. C'est aussi la conséquence du péché. La mort spirituelle, être privé de la communion avec Dieu. La destination finale, et je ne parle pas du film, qui finalement est un conte de fées, certainement, je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas envie de le voir, mais qui est certainement un conte de fées par rapport à la réalité des incrédules. Leur destination finale n'est autre que l'enfer. L'enfer, c'est quoi ? C'est un lieu où Dieu n'est pas, et n'est pas du tout. C'est la seconde mort. Encore sur terre, certains disent, sur terre, c'est l'enfer. Certains vivent des choses terribles, plus que nous pouvons vivre, mais ça n'est pas l'enfer. Parce que sur la terre, il y a quand même la marque de Dieu encore. Il y a l'Église qui est présente, il y a le sein de la terre, il y a l'Esprit de Dieu qui est là pour agir. Il y a les œuvres de Dieu, mais en enfer, il n'y a plus rien de Dieu. Et n'y seront que ceux qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Et là, c'est la seconde mort. Le lépreux, il est dit qu'il devait porter des vêtements déchirés, ses vêtements déchirés en signe de deuil. Finalement, il était considéré comme mort aux yeux de la communauté et à ses propres yeux. Donc on voit toutes les incidences de la lèpre. Et puis un point aussi qui est moins connu, mais qui est extrêmement important, la lèpre, elle se manifeste par une perte de sensibilité. Une perte de sensibilité. Elle commence par se manifester par une insensibilité au niveau des terminaisons nerveuses, au niveau de la peau, notamment au niveau des extrémités, des mains, des pieds. Les nerfs de la périphérie superficielle sont atteints et ça peut entraîner de graves infirmités, des déformations, des paralysies, des mutilations, des amputations. Donc on voit que la sensibilité de la peau, elle a un rôle de protection. Elle est indispensable au bon fonctionnement du corps. Et vous pouvez le voir aussi au niveau de l'Église, qui est un organisme, on verra après, vivant. Elle est indispensable, la sensibilité. Parfois, on dirait, j'aimerais bien ne pas souffrir, ne pas avoir mal. Mais la douleur aussi est utile, parce que c'est une réaction de défense naturelle. Elle a un rôle d'alerte. Quand on est agressé, intérieurement ou extérieurement, ça se traduit par de la douleur. Si je vous monte sur le doigt, vous allez faire « aïe », et moi pareil. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez retirer votre doigt, vous allez faire quelque chose. Et finalement, c'est un rôle bénéfique. Ça permet au corps de s'organiser face à l'agression. L'agression, ça peut être différent, ça peut être une brûlure, ça peut être une gerçure, ça peut être une coupure, ça peut être un coup, une morsure, une fracture, une foulure, une piqûre. Mais si les nerfs de la sensibilité sont atteints, attention, danger, le corps devient vulnérable. Le corps devient vulnérable. Si vous vous appuyez sur une plaque chauffante, naturellement, vous allez vite retirer votre main. Mais si vous le faites alors que vous ne sentez pas votre main, vous ne sentez pas, vous allez laisser votre main. Si vous marchez, que vous vous foulez le pied, vous allez faire hop, vous allez arrêter, vous allez boiter. C'est une protection pour éviter que ça aille pire. Si vous ne le sentez pas, vous allez continuer. Et puis vous allez déformer votre pied, vous allez marcher sur votre cheville. C'est pour ça qu'ils ont souvent les chevilles complètement déformées. Si vous vous piquez, vous marchez sur une ronce ou autre, vous n'allez rien sentir, vous allez continuer. Et puis jusqu'au moment où ça va s'infecter. Et vous n'allez pas sentir, ça va s'infecter, etc. Et c'est comme ça que les lépreux poussent à... Si ça n'est pas traité, ils peuvent perdre leurs membres. La sensibilité, elle a aussi un rôle relationnel d'échange avec les autres. Par la peau, on touche l'autre. quand on donne une poignée de main, par exemple, un baiser, une accolade. S'il y a une perte de sensibilité, le lépreux, c'est aussi un handicapé relationnel. Je vais vous donner un exemple. Si vous, quand vous serrez la main de quelqu'un, vous dosez, on serre une main, vous voyez, vous dosez. Mais si vous ne sentez pas du tout, et ça existe, vous avez des gens qui ont perdu la sensibilité, ils sont extrêmement gênés. Si vous serrez la main, vous ne savez pas, vous pouvez serrer comme une brute, vous allez écraser la main de la personne, ou vous allez donner une chic molle complètement. Vous ne sentez pas. Et c'est pour tout pareil. C'est pour tout pareil. Vous savez, vous savez pas, quand vous êtes, ça vous est déjà arrivé d'avoir une anesthésie au niveau des dents, et pendant un temps, vous ne sentez plus du tout. C'est terrible, hein ? On sent pas ce qu'on mange, on a l'impression de on est déformé, on se sent strict. C'est terrible, hein ? C'est terrible. La sensibilité est utile. La sensibilité est utile. Par rapport à la sensibilité, le péché, il va aussi se traduire par une insensibilité par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Paul va dresser un tableau saisissant des hommes dans les derniers jours. Avec cette précision, dans 2 Timothée 3, il dira qu'il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, etc. Mais un point aussi qui dit, ils seront insensibles. Ils seront insensibles. D'autres versions disent, ils seront durs, sans affection naturelle, implacables, insensibles. C'est une marque de péché, une marque de lèpre avancée, l'insensibilité, notamment vis-à-vis de Dieu. Romains 9 dit, de 5 face à la bonté de Dieu et à la patience de Dieu, il nous est parlé de cœurs qui sont endurcis, impénitents, ce qui amènera la colère de Dieu. Jésus lui-même va parler, en citant le prophète Ésaïe, dans Matthieu 13, il dira, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est insensible à Dieu, à sa voix, à sa parole, à sa présence. Ils ont endurci leurs oreilles. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas d'un coup comme ça insensible. C'est un acte de la volonté. C'est l'homme qui décide de se détourner en désobéissant à Dieu de différents domaines et qui refuse finalement, qui endurcit. C'est nous-mêmes qui nous endurcissons, qui endurcit le cœur, l'oreille, qui ferme les yeux. Et finalement, on peut être là, et c'est comme ça quelquefois, on peut venir à des réunions. Si on s'est détourné de Dieu de manière insidieuse ou brutale, on peut être dans des réunions et ne pas expérimenter la présence de Dieu. On entend la parole de Dieu, ça ne nous touche pas. On entend les chants, ça ne nous touche pas. La communion fraternelle ne nous fait rien. On est insensible. Mais c'est souvent un signe de lèpre au niveau de notre cœur et c'est un signal d'alarme. Le problème, ce n'est pas à ce moment-là forcément le problème de l'Église, le problème des autres, le problème de la parole. Même pareil, quand on lit la parole de Dieu, on dit « je ne comprends rien, c'est toujours pareil. » Vous voyez, c'est l'insensibilité. L'endurcissement de cœur n'est ni le propre des inconvertis, comme on l'a vu, ni même celui des Juifs. À l'époque de Jésus, il peut aussi se rencontrer au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi il y a cette mise en garde sérieuse en guise d'avertissement dans Hébreux 13, 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Prenez garde, frères. Donc là, frères, c'est plus seulement des gens du dehors, hein. Ça s'adresse à l'Église, à nous. Prenez garde, frères. Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Donc on peut être chrétien et on peut être incrédule. On peut être chrétien et être devenu mauvais. Incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. C'est pour ça qu'il est dit, exhortez-vous les uns les autres. L'importance de nos rassemblements, de la communion fraternelle, on est là pour s'encourager, pour se fortifier, pour éviter de tomber dans cet endurcissement. Pire qu'on était même avant qu'on connaisse le Seigneur. Mais en même temps, il y a une promesse merveilleuse dans Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Alléluia !« Et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai votre cœur, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Et je me suis posé la question par rapport à ce verset-là, cœur de pierre, cœur de chair. Dans le monde, il y a des gens qui ont des cœurs de chair, si on comprend. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sensibles aux autres, qui sont des bonnes personnes humainement parlant. Alors de quoi le Seigneur veut-il parler par rapport à ça? Un cœur de pierre par rapport à un cœur de chair. Je crois que un cœur de chair, selon Dieu, c'est un cœur qui est capable à nouveau d'être sensible, d'abord au péché et d'abord à son propre péché. Pierre, il vivait sa vie comme ça, mais il n'était pas sensible à son propre péché. Et dans la présence de Jésus, il a pris conscience qu'il était pécheur, de la sainteté et en même temps de l'amour de Jésus. Et c'est ça, finalement, d'avoir un cœur de chair, c'est d'être sensible au péché, à ce qui est mal, à ce qui offense Dieu, à commencer par notre propre vie, nos propres attitudes, nos propres réactions, nos propres pensées. La sensibilité spirituelle, elle est aussi une protection contre les agressions du péché, contre les tentations, les sollicitations de la chair, du diable. Un cœur lépreux spirituellement, il est insensible, donc il est plus vulnérable. Il est plus sujet à tomber, parce qu'il ressent moins. Voyez ? Tandis que le cœur qui est sensible, qui est proche de Dieu, dès que le mal va se présenter, dès que la tentation, dès que la mauvaise pensée va arriver, tout de suite il va être alerté. Tout de suite. On le voit David, là, quand il est prêt, Saül à portée de main. Son cœur se met à battre. Et il est repris par Dieu, il dit « Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. » Alors qu'il y avait les autres derrière, qui le poussaient. « Tu l'as sous la main, vas-y, vas-y, c'est ton moment, vas-y, décapite-le, tue-le. » On voit différence. Même si la cause était, Saül méritait d'être jugé. Mais David, il avait cette sensibilité. Dire non, moi je ne mettrai pas la main. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Parce qu'il était proche de lui, il avait cette sensibilité. Les autres n'avaient plus cette sensibilité, donc ils agissaient selon la chair. La fin justifie les moyens. Il a fait ça, il mérite. On revient sous la loi, œil pour œil, dent pour dent. Il m'a fait ça, c'est normal. C'est non seulement la sensibilité par rapport au péché, mais c'est aussi la sensibilité par rapport à la présence de Dieu, par rapport à sa sainteté. Simplement dans l'adoration, parfois sans rien dire, dans la présence de Dieu. On est touché par la présence de Dieu. On est sensible à sa présence, à sa sainteté, et on se laisse toucher, envahir par lui. C'est la sensibilité aussi à ses directives. Dans le psaume 32, il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est ça cette sensibilité où Dieu veut nous conduire, parce qu'on va être sensible à la voix de Dieu. Proverbe 22 dit « Je vais t'instruire aujourd'hui. » Oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils, des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Le Seigneur veut parler à son peuple, le Seigneur veut nous parler individuellement. Mais est-ce que nous sommes sensibles ? Est-ce que nous avons un cœur sensible pour l'entendre ? C'est aussi un cœur sensible à ses préoccupations, à ses fardeaux. Le Seigneur pourra dire par rapport à Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il avait un fardeau par rapport à Sodome et Gomorrhe, il avait un fardeau. Mais il a trouvé un cœur sensible qui s'est manifesté, ce n'est pas le propos, mais on voit comment Abraham a comme poussé finalement Dieu à lui parler. Parce qu'il était sensible, il sentait qu'il y avait quelque chose dans le cœur de Dieu. Et il s'est approché de Dieu, il était sensible. Et cette manière-là, il a quand même pu sauver son neveu. Et puis les quelques-uns. Il serait passé à côté, mais il a été sensible. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Dans Ézéchiel 11, 19, il est dit « Je leur donnerai un même cœur aussi. » Non seulement je vous donnerai un cœur nouveau, mais je leur donnerai un même cœur. Et ça, c'est aussi un cœur qui est capable de battre à l'unisson avec ceux des autres, notamment dans l'Église. La Bible nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pas naturel. C'est spirituel, c'est pas naturel, ça se fabrique pas. Mais si notre cœur est sensible à Dieu par Dieu, eh bien Dieu nous donnera progressivement cette sensibilité aussi aux besoins des autres et peut-être aussi ce tact. Un cœur sensible aux besoins des autres. Finalement, est-ce que ce lépreux qui s'approche de Jésus, c'est pas un petit peu nous aussi quelque part ? Vous voyez, au départ on voit le lépreux, c'est le monde, c'est ceci. Est-ce que ça peut pas non plus être nous aussi ? Quelque part, comme lui, comme ce lépreux, comme Pierre, nous avons besoin d'avancer vers Jésus pour lui demander. Mais c'est notre privilège, c'est notre responsabilité et c'est notre part. Vous voyez, il s'est approché. Ce lépreux, il n'est pas resté dans son coin, il s'est approché de Jésus. Alors qu'il risquait d'être lapidé. Il risquait d'être lapidé. Parce qu'il se découvrait, il allait là, au milieu de la foule. Mais il a pris le risque, c'est le risque de la foi. Et pour nous, c'est la même chose. À un moment donné, il faut nous découvrir, il faut accepter d'aller au pied de Jésus. Même si on est saisi d'épouvante face à sa sainteté et notre situation à nous. Et de venir au pied de Jésus. Pierre aussi. De venir tout à nouveau pour lui demander de nous purifier de toutes nos impuretés. Notre lèpre. Alors certains, peut-être, peuvent être lépreux, comme cet homme, de la couvert complètement. Ça peut arriver, Dieu seul voit les cœurs. Et celui qui est concerné le sait. Mais parfois, ça peut être une chose, simplement. Dans certains cas, c'est des paroles. Combien de fois on a pu contaminer quelqu'un par nos paroles ? Peut-être notre apparence, nos actions sont bonnes, mais nos paroles sont mauvaises. Peut-être c'est par nos pensées, par nos actions. Peut-être c'est simplement par là où on va, par ce qu'on regarde. Il y a cette lèpre qui est là, peut-être au niveau de la main, ou au niveau du pied, ou au niveau du cœur, ou au niveau de... Vous voyez ? Ou ce à quoi on prête l'oreille aussi. Sachant que il veut, Jésus va dire, je le veux, sois pur. Et ça, c'est pour quelqu'un ce matin. Jésus veut te purifier. Jésus ne veut pas que tu restes comme ça. Jésus veut te purifier. Je le veux, sois pur. Cette parole, elle est pour quelqu'un en particulier. Elle est pour chacun d'entre nous, mais elle est pour quelqu'un en particulier. Jésus dit, te dit, je le veux. Sois pur. Il a le moyen de te purifier. Il ne veut pas que tu restes comme ça. Le lépreux, il était empreint de la pensée de l'ancienne alliance. C'est-à-dire que Dieu fait grâce à qui il veut, quelque part. Effectivement, du temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais il est dit que simplement, c'est un lépreux syrien qui a été guéri, les autres lépreux n'ont pas été guéris. Il était empreint de cette pensée. Le Seigneur, il savait que Dieu, c'était un croyant, il savait que Dieu est capable de le faire. Mais il n'était pas sûr que Dieu le veuille. Comme si Dieu avait des choix. Et peut-être tu dis dans l'église, mais est-ce que Dieu veut vraiment me changer ? Est-ce que Dieu veut vraiment, s'intéresse vraiment à moi personnellement ? Eh bien oui, il le veut. Oui, il le veut. Et c'est ce qu'il va dire, oui, il le veut. La nouvelle alliance, Jésus veut te purifier. Il n'y a pas d'élection, de choix particulier. Il veut te purifier personnellement. Il veut te délivrer de tes chaînes. Il veut purifier ton cœur. Il faut appliquer cette parole pour notre vie. Il veut étendre sa main sur nous. Il veut nous toucher. Ça paraît tellement simple comme ça, il suffit que Jésus touche. Mais il a pourvu pour ça. Il a payé parfaitement pour notre guérison. Il a payé parfaitement pour notre guérison. Ça n'a pas été gratuit. Ça n'a pas été gratuit. Ésaïe 53 nous dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ça, c'est le prix qu'il a payé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Des meurtrissures, ce sont des blessures profondes. Ce sont des blessures profondes. Jésus a été blessé profondément. Au-delà même de la peau. Il a été blessé par les coups, mais il a été blessé par nos péchés. Parce que sur la croix, il était chargé de nos péchés. Et ça n'a pas été pour lui simplement une plaie superficielle. Ça a été une plaie profonde, très profonde. Lui qui est ce Dieu saint, ce Dieu parfait, qui n'avait jamais connu le péché, qui ne l'avait jamais expérimenté. Il a expérimenté la profondeur du péché, la douleur du péché et la séparation d'avec Dieu. Finalement, la Bible dit qu'il a été fait péché pour nous. Mais il a été fait lépreux pour nous, finalement, le temps où il était sur la croix, parce qu'il était chargé de nos péchés. Il était chargé de nos iniquités. Mais si lui les a portés, c'est pour que nous n'ayons plus à les porter. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, afin que la délivrance puisse être opérée aujourd'hui. Moi, je crois que le Seigneur veut faire un travail de guérison dans les cœurs. Et un travail en profondeur. Un travail en profondeur. Il est dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés, c'est aussi des cœurs qui ont été blessés, qui sont marqués par la lèpre. Vous voyez ? Et qui sont insensibles, qui sont vulnérables, qui sont blessés, qui ne fonctionnent pas normalement, pour X raisons. Mais Jésus veut guérir ton cœur brisé. Ton cœur lépreux, c'est aussi une manifestation de la lèpre. Pour terminer, il devait présenter pour sa purification ce que la loi ordonne. Et vous pourrez lire ça dans Lévitique 13, c'est très intéressant. Il devait présenter, notamment, il y avait deux oiseaux qu'il devait présenter. L'un était égorgé et l'autre était laissé vivant. Avec l'oiseau égorgé, il prenait avec l'oiseau vivant, il le trempait dans le sang de l'oiseau vivant. Il prenait également de l'hysope, ça nous parle de l'humilité de Jésus. Il prenait également du cramoisi, ça nous parle de la gloire de Jésus, de la royauté de Jésus. Il prenait également du bois de cèdre, ça nous parle de la majesté de Jésus. Donc il avait tout ça en présence, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et il prenait tous ces éléments-là et il les trempait dans le sang. Et avec ça, il aspergeait celui qui venait pour se purifier. Cette fois, ça nous parle de la perfection. En Jésus, nous sommes parfaitement purifiés. Et il faut simplement se mettre au bénéfice de l'œuvre de Jésus, tout à nouveau, pour se laisser purifier, se laisser imprégner de la personne de Jésus-Christ, de son œuvre. Et puis ensuite, il y avait deux agneaux qui devait sacrifier l'agneau de la culpabilité et l'autre également pour le sacrifice d'expiation. Et avec celui pour l'agneau pour la culpabilité, eh bien, il est dit qu'il prenait du sang de ce sacrifice-là et il l'appliquait sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et également sur le pouce du pied droit. Et par-dessus, il allait mettre de l'huile. Mais ça nous parle de l'œuvre de Jésus encore. Et le Seigneur veut appliquer sur quelqu'un, veut appliquer sur ma propre vie, parce que j'en ressens le besoin, son sang qui purifie. Au niveau de l'entendement, au niveau des pensées, au niveau des actions, au niveau des démarches. Mais non seulement le Seigneur veut purifier, mais il veut mettre son huile. L'huile, ça adoucit, mais l'huile également, ça nous parle de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, qui nous rend capable, qui nous porte. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il ne contente pas de nous purifier, mais il veut nous rendre capables de faire sa volonté. Amen.